Nous allons aborder le dernier débat de ce colloque sur les médiations du livre. Alors nous, notre intitulé, c'est « Médiation collective ». Alors pour en débattre, trois spécialistes. Agnès Camus-Viguet, qui appartient à la maison, puisqu'elle est sociologue rattachée à la BPI.
Au service études et recherches.
Au service études et recherches. À son côté, Véronique Bourlon, qui est la directrice d'un festival très particulier qu'elle va nous raconter, le festival du premier roman à Chambéry.
À Chambéry, oui. La montagne.
La montagne. Et Corinne Abensour, qui est maître de conférence à Paris 13 et qui est spécialiste d'édition contemporaine. Alors, je vais leur laisser tout de suite la parole et elles diront chacune le point essentiel qu'elles veulent développer. Mais pour, disons, donner un cadre à notre débat, j'avais envie de partager avec vous, disons, deux scènes littéraires liées à la médiation du livre, c'est-à-dire à l'accès à cet objet très particulier, au premier accès même. Je vais vous proposer de les regarder ensemble. Vous allez tout de suite les reconnaître. Ce sont deux enfants. Le premier, c'est le jeune Sartre, qui entre dans la bibliothèque de son grand-père et qui, là, va qu'à ses occupations, va vers le livre de la manière la plus libre possible. Il hume les couvertures, vous vous souvenez, il prend l'objet. Il est déjà à son affaire de liberté et de phénoménologie. Le deuxième enfant, tout à fait différent, c'est le jeune Lankit Poulou pour Marcel. C'est le narrateur de la recherche et à ce moment-là, le lien au livre est beaucoup plus médiatisé. Il est donné par la mère, il est donné par la voix de la mère, il est donné comme l'amour maternel, il est donné comme la nourriture première. C'est évidemment la lecture de François Le Champy que le narrateur entend chaque jour. Alors, il me semblait que c'était intéressant encore pour nous aujourd'hui de revenir sur la question des médiations collectives du livre à partir de ces deux scènes, parce que qu'est-ce que nous voyons dans l'espace public autour du livre aujourd'hui? D'une certaine façon, nous voyons la bibliothèque de Sartre, je pense aux librairies aujourd'hui qui sont des lieux très souvent très investis, très accueillantes, les grosses librairies de centre-ville dans lesquelles les éditeurs ont fait un effort considérable ces dernières années pour animer le rayon en particulier des livres de poche. Les livres de poche aujourd'hui sont de très jolis objets, aussi jolis que nos objets technologiques, et les gens vont vers eux comme à la cueillette. Bon, les gens de marketing diront ça d'une façon peut-être moins métaphorique en disant le livre est aujourd'hui un objet d'achat d'impulsion, et tant mieux. Alors on verra peut-être avec vous si la bibliothèque remplit ce même office ou si elle est en train d'évoluer justement dans son offre. Et vous aurez un point très intéressant à nous raconter, en particulier lorsque les étudiants viennent travailler. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ensuite, deuxième manière de regarder la médiation du livre aujourd'hui, le don maternel. Alors, comment ça se passe maintenant dans les familles? On le sait bien, c'est moins le parent qui donne le livre, malheureusement, que l'école. Donc il se passe quelque chose pour les enfants d'aujourd'hui. Corinne Abensour peut-être reviendra là-dessus, parce qu'elle nous parlera des prix littéraires en littérature de jeunesse. Qu'est-ce qui se passe pour nos enfants aujourd'hui? Ben, ils ont un peu la tête fendue en deux, c'est-à-dire qu'il y a la lecture de prescription, et puis il y a la lecture dite plaisir. Et les médiateurs que sont les profs eux-mêmes ont intériorisé ce clivage, et donc deal avec les enfants ou avec les adolescents. J'en ai eu un exemple récemment dans mon entourage. Un chapitre de La Petite Fadette, pour rester avec George Sand, contre trois chapitres de Twilight. C'est juste comme ça. On en est donc là, et du coup, là, les sociologues parlent beaucoup du switch entre les figures d'autorité, d'expertise par rapport aux figures d'expérience. Donc le livre aujourd'hui est beaucoup plus prescrit par le lecteur lui-même, de lecteur à lecteur, que par le critique vis-à-vis de son lecteur. De même que le prof, le critique, a perdu de son autorité. Donc, bien sûr, lorsqu'on va sur les forums Internet, c'est vraiment intéressant la façon dont le livre peut être raconté. Nous avons des récits d'expériences sensibles, très amusants, très intéressants. Le livre n'est pas donné parce qu'il est statutaire ou porteur d'un savoir particulier ou d'une valeur culturelle, le livre est donné parce qu'il peut, à un moment donné, représenter une expérience partageable. Lundi dernier, il pleuvait, Mon mari était idiot, mon amant ne m'envoyait pas de SMS. Je suis tombée sur un roman de Flaubert formidable, tu dois le lire. C'est ça que l'on lit sur les réseaux sociaux, et c'est ça qui est nouveau dans la médiation du livre aujourd'hui. Je pense qu'on en parlera à propos du festival que vous, hein, qui met beaucoup en avant cette, ce qu'on appelle aujourd'hui le buzz, mais qui est une espèce d'immense bouche à oreille. Et qui a vraiment une importance sociale considérable. Voilà, donc pour finir, finalement c'est vous qui nous parlerez de l'extrême de cette logique-là en ce moment, c'est-à-dire le réinvestissement du lieu du livre, salon, festival, même si vous faites une différence, vous nous direz, mais ces endroits où l'on rencontre le livre avec d'autres. Alors parfois avec les auteurs, parfois la plupart du temps avec d'autres lecteurs, et donc pour des expériences de vie finalement, une lecture, une conférence, un repas partagé. Le livre devenu un objet, un enjeu de convivialité, donc une médiation, on pourrait dire, hyper collective, hyper sensible, au moment même, et c'est ça qui est le plus intéressant pour nous, eh bien, au moment même où il se dématérialise complètement. Voilà. Donc je vais laisser tout de suite la parole à Corinne Abensour qui va nous parler d'une médiation particulière et qui bouge un peu le médiateur qui est le professeur, les prix littéraires en littérature jeunesse. Okay.
Donc avant d'aborder les prix, en fait je voudrais faire un peu une comparaison entre prix littéraires et prix pour la jeunesse. Avec tout d'abord ce constat sur la prolifération des prix littéraires, qui sont passés d'une dizaine au début du siècle à plus d'un millier aujourd'hui, et un constat tout à fait similaire sur les prix jeunesse qu'on ne peut pas dénombrer, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure, mais on peut déjà en dire qu'ils sont forcément beaucoup plus nombreux encore que les prix littéraires, puisqu'ils relèvent d'initiatives extrêmement locales, extrêmement souvent même confidentielles. Donc l'idée, c'est que les mécanismes à l'œuvre sur les prix littéraires et sur les prix jeunesse apparaissent tout à fait différents, et notamment dans le rapport de ces prix à la médiatisation et dans leur fonction de médiation. Pour mener la comparaison, je vais commencer par rappeler très très brièvement quelques caractéristiques des prix à partir desquels j'ai réfléchi. Donc tout d'abord, l'idée que les prix littéraires tels que nous les connaissons aujourd'hui ont progressivement changé de visée. Et là, je voudrais partir d'un propos d'Edmond de Goncourt, le 6 novembre 1889, dans une interview au Gaulois. Il déclare que le but de son prix, qui est un des plus anciens et qui est aujourd'hui le plus convoité, le but de son prix était, je le cite, « d'aider à l'éclosion des talents, de les tirer des difficultés matérielles de la vie, de leur faciliter la tâche de produire une œuvre littéraire ». Très vite, cette conception du Goncourt, qui est conçue comme, on le voit bien, l'adoubement d'un jeune écrivain, disparaît, et les critiques très tôt dénoncent le caractère promotionnel du prix, et ce, avant même que les éditeurs eux-mêmes n'aient commencé à exploiter commercialement la récompense, puisqu'il faut attendre 1911 pour que Gallimard, qui est primé cette année-là pour un roman d'Alphonse de Chateaubriand, mette en œuvre une vraie stratégie commerciale. Et d'ailleurs, on peut signaler que cette année-là, il y a des membres du jury, Octave Mirbeau notamment, qui s'étaient émus de l'attribution du prix à un auteur qui n'avait absolument pas besoin d'un soutien matériel pour poursuivre sa carrière d'écrivain. Donc, dès le début du XXe siècle, le Goncourt ne sert plus à lancer une carrière littéraire, il ne sert plus à légitimer de jeunes talents, il constitue juste un levier commercial pour assurer une hausse des ventes. C'est encore plus vrai aujourd'hui, hein, où le Goncourt, mais aussi un certain nombre des autres prix qui se sont créés au fil du temps, ne font plus découvrir d'écrivains, couronnent des talents déjà affirmés, sont là pour générer, ou même plus souvent pour amplifier un succès commercial, et récompensent des livres que la notoriété de leur auteur fera vendre, ou des livres, comme par exemple Les Bienveillantes récemment, Chagrin d'école, où on l'a dit hier, le concours 2009, Trois femmes puissantes, des livres qui se vendent déjà. Le deuxième constat intéressant, toujours en préalable, c'est le recul des prix d'automne, donc le Goncourt, le Renaudot, etc., au profit des prix de printemps. Et ce qui m'intéresse dans cet essor des prix de printemps, c'est un changement profond qui s'opère, puisque les prix décernés par des auteurs, donc par des pairs, sont détrônés par des prix décernés par les médias, dont les jurys sont constitués par des personnes choisies dans leur public, donc les lectrices de Elle, les auditeurs de France Inter, les spectateurs de France Télévisions, etc. Ce remplacement des jurys d'auteurs par des jurys de lecteurs s'explique par la perte de crédibilité des jurés écrivains. Tous les débats sur la supposée corruptibilité de ces jurés. Et en même temps, on constate maintenant que les jurés lecteurs font eux aussi l'objet de nombreuses polémiques et que on peut en déduire que leur succès ne tient pas à la transparence des prix qu'ils décernent, mais que ce qui est en cause, c'est plutôt la perte de légitimité des experts comme tendance de fond dans notre société et qu'on peut rapprocher d'autres phénomènes comme le succès de Wikipédia, c'est-à-dire un concept où la rédaction de notices encyclopédiques sont faites par des utilisateurs. Ben, exactement de la même façon, on trouve normal que ce soit les lecteurs qui couronnent les livres. Alors, si j'en viens maintenant au prix pour la jeunesse, la question c'est est-ce que c'est ces rappels ultra rapides sur quelques caractéristiques des prix littéraires nous aident à comprendre le paysage des prix pour la jeunesse et le fonctionnement de ces prix. Ce qui peut aider, c'est une très très brève, de nouveau, typologie de ces prix, avec comme constat l'idée qu'ils sont segmentés par âge et par type d'ouvrage, ce qui signifie qu'ils épousent les logiques de présentation de l'offre qui sont conçues par les éditeurs. Deuxièmement, qu'ils sont décernés par des instances très très variées, tout comme les prix littéraires. Donc on trouve des prix décernés par des libraires, par des salons ou des fêtes du livre, par des médias, par des bibliothèques, des établissements scolaires, c'est ce qui va m'intéresser le plus. Et en particulier, ces prix décernés par des établissements scolaires sont à la fois extrêmement nombreux et impossibles à recenser, car ils sont très souvent, je le disais en commençant ce propos, ils sont très confidentiels, ils peuvent être décernés par une classe, par plusieurs classes, se limiter à une rencontre avec l'auteur, et parfois même, il n'y a aucun dispositif de ce type qui puisse leur donner une quelconque visibilité. Troisième constat, l'idée que les jurys sont composés de toutes sortes de jurés, qui peuvent être des organisateurs de salons, des libraires, des journalistes, des professeurs, des auteurs, des illustrateurs, et dans de nombreux cas, des enfants eux-mêmes, avec une particularité de ces jurys qui est qu'ils sont souvent mixtes, incluant différentes catégories de jurés dans le but de les faire dialoguer ensemble autour du livre. Et puis la dernière caractéristique qui me semble tout à fait capitale, c'est que le public visé, ça n'est pas seulement celui des lecteurs, mais c'est tout autant celui des médiateurs et celui des prescripteurs. Alors cette typologie est en fait, qu'est-ce qu'on peut remarquer qui prouve la singularité des prix jeunesse ? Tout d'abord, et pour revenir à ce que je disais sur les caractéristiques et les visées des prix littéraires, un premier constat peut-être un peu brutal, c'est que les prix pour la jeunesse ne s'intéressent pas aux livres qui se vendent et qui ne font pas non plus vendre les livres. Et un mot sur le Goncourt des lycéens, parce que j'imagine que ça vous fait immédiatement réagir, dans la mesure où c'est vrai que le Goncourt des lycéens est le seul prix décerné par un jury de jeunes lecteurs qui fasse vendre, et qui fait vendre même plus que le Goncourt lui-même, je pense que vous. Parfois, non. Il est arrivé. Non, c'est jamais arrivé.
Non, c'est jamais arrivé. Bon. Je précise, en fait, si j'interviens sur le prix Goncourt des lycéens, c'est que j'ai travaillé 10 ans à la FNAC. C'est la FNAC qui organise ce prix Goncourt des lycéens. Et voilà, je m'en suis occupée pendant 10 ans. Donc, nous pouvons dialoguer avec Corinne Abensour sur ce prix.
Bon, mais il fait vendre.
Mais il fait vendre quand on s'aperçoit qu'il fait vendre, comme tous les autres prix, quand déjà, avant qu'il ait reçu le prix, il a déjà eu une lancée de vente, quoi. C'est-à-dire que si on démarre à zéro et si ce livre reçoit le prix Goncourt des lycéens, ça ne fait rien. S'il est déjà sur une lancée de vente, alors effectivement, oui, ça va accentuer cet effet et on va atteindre des ventes qui peuvent aller au-delà du Renaudot, au-delà du Femina, etc.
Donc c'est un phénomène d'amplification comme
ça. Comme les autres prix.
Comme les autres prix.
Ouais, enfin, peut-être pas les prix jeunesse, là, par contre, j'y connais rien. Mais en tout cas, comme les autres prix, on va dire, littéraires pour la littérature adulte.
Alors, les caractéristiques du Goncourt jeune, pour des lycéens nous intéressent parce que finalement, ça permet de comprendre, comme il fonctionne complètement à l'opposé des prix jeunesse, ça permet de bien comprendre la démarche de ces prix. Il repose tout d'abord sur une sélection qui ne contient pas de romans choisis pour leur intérêt pour des lycéens, puisqu'il s'agit de la sélection Goncourt. Là aussi, peut-être qu'on pourra en reparler après, mais enfin, il me semble qu'il y a chaque année dans la sélection Goncourt des tas de livres qui, a priori, n'ont aucun intérêt pour des lycéens. Deuxièmement, il est très médiatisé et à toutes ses étapes. Et il est décrit par beaucoup d'enseignants comme un prix paillette, en raison même de cette médiatisation qui l'accompagne. Et peut-être qu'en termes de médiation, ce qui est le plus intéressant, c'est les clivages qu'il crée dans les établissements et qui m'ont été décrits entre la classe Goncourt et les autres classes. C'est-à-dire qu'au lieu d'emmener la totalité d'une communauté scolaire dans cette opération de réflexion autour du livre, eh bien, finalement, ça isole et ça... ça met en avant certains élèves qui bénéficient de l'opération. Or, les prix jeunesse, à l'inverse du concours des lycéens, ont pour caractéristique d'être le plus souvent faiblement médiatisés et très soucieux, en revanche, de cette démarche de médiation qui profite à tous les élèves. On peut en effet avancer qu'en termes de médiation comme de médiatisation, les prix jeunesse n'ont finalement rien de commun avec les prix littéraires. En termes de médiatisation, d'abord, on peut se demander s'ils ne visent pas plus à assurer une visibilité du secteur jeunesse plutôt qu'une visibilité des auteurs eux-mêmes. Dans un paysage médiatique d'où la littérature jeunesse est quasi absente, les prix sont une façon de capter l'attention. Ils sont une façon de dire que les livres pour la jeunesse sont des livres qu'on peut critiquer, qu'on peut distinguer, qu'on peut apprécier d'un point de vue littéraire. Et là, je voudrais faire allusion à ce que Christophe Kantchev a dit hier, puisqu'il mentionnait l'absence totale de critique dans un support qui muse... que tu connais bien, et il le faisait sans se référer à la nature de ce support, hein, qui est un support destiné aux adolescentes.
Mais il y a de la critique littéraire dans Muse.
Oui, enfin, il disait que la façon dont on parle des livres repose moins sur des démarches de véritable critique de dialogue avec les auteurs.
Il y a deux choses. Il y a du dialogue avec les auteurs, il y a du... métalangage, c'est-à-dire on fait parler un auteur sur son livre culte, par exemple. Donc c'est une façon de médiatiser différemment le livre. Mais, d'ailleurs, je le déplore plutôt, il y a de la critique littéraire traditionnelle où on dit, avec la petite étoile genre Télérama, c'est bon, c'est pas bon, etc. C'est pas ce qui marche le mieux. Bon, je pense que c'est un modèle totalement obsolète, surtout auprès de gens qui ont entre 18 et 25 ans.
Bon, alors, comme Christophe Kantchev n'est pas là...
Muse est un petit support, micro-niche, 20 000 ou 25 000 abonnés. Pour les jeunes filles, en gros, c'est un support, c'est un magazine très joli sur la littérature, un peu le cinéma, et qui a été pensé pour essayer de relier, pour des jeunes filles, en gros, des lycéennes ou des hypocagneuses, des cagneuses, le lien entre, mettons, la culture, la construction de leur identité féminine. Voilà. Donc c'est très particulier, très amusant, très joli. Très limité.
Oui, donc pour revenir à cette idée qu'on médiatise plus un secteur qu'un auteur, je dirais que remettre un prix jeunesse est pour les plus médiatiques de ces récompenses, parce que je ne parle évidemment pas de celles qui sont... élaborées dans des établissements scolaires et qui font d'ailleurs même pas du tout l'objet d'une remise, mais je parle ici de celles qui sont remises dans des salons ou par des médias. Il s'agit donc plutôt d'une façon de faire reconnaître un secteur éditorial et non de légitimer des auteurs qui n'y gagnent en fait aucune notoriété. En termes de médiation, là aussi des logiques très singulières s'observent. On constate tout d'abord que les prix jeunesse permettent de défendre la diversité de l'offre, une fonction qui n'existe pas pour les prix adultes, qui emboîte, je l'ai dit tout à l'heure, plus souvent le succès, Goncourtiser un best-seller est devenu une pratique courante et on n'imagine pas, ou plus difficilement, un salon du livre ou un établissement scolaire remettre un prix à Rowling ou à Stéphanie Meyer. Mais surtout, la particularité des prix jeunesse tient à ce qu'ils changent le rapport au livre de ceux qui y participent. Ils aident en particulier les enseignants et les élèves à mieux appréhender une littérature vivante, non patrimoniale, c'est-à-dire de qualité inégale. Choisir un livre, le primer, c'est pour les enseignants accepter de découvrir une littérature non encore filtrée. Or, les enseignants lisent peu de littérature contemporaine parce qu'ils sont mal à l'aise avec des œuvres non canoniques et qui, pour la plupart, ne resteront pas dans le patrimoine littéraire. Participer à un prix jeunesse, c'est pour eux se confronter à des questions cruciales dans la médiation du livre, mais qu'on ne se pose jamais sur les classiques. Des questions comme qu'est-ce qu'une œuvre originale ? Comment apprécie-t-on les qualités littéraires d'une œuvre ? Ou pour faire allusion à un succès de librairie, qu'est-ce qu'une œuvre ratée ? Pour les enfants qui participent à ces jurys de lecteurs, le bénéfice en termes d'accès à la lecture est le même. C'est-à-dire que ces questions-là aussi, elles se posent pour les enfants et en l'occurrence pour les élèves eux-mêmes. Derrière la prolifération des prix pour la jeunesse, dont des enfants et des professeurs sont les jurés, on peut donc supposer que se forme un rapport nouveau à l'écrit et à la lecture, d'où cette question qui sera ma conclusion. Les prix littéraires pour la jeunesse ne sont-ils pas finalement surtout utiles à ceux qui les décernent ? Et j'ajoute que c'est une question qui n'est pas interdite non plus de se poser pour la totalité des prix littéraires.
Ce serait une bonne perspective. Non, ce qui voudrait dire que les professeurs aujourd'hui utilisent les prix, ce type de prix pour leur transmission de savoir ou pas ?
Ce qui me semble intéressant, c'est l'idée qu'il y a des prix qu'on connaît, sur lesquels les établissements ont des dispositifs assez voyants, et qu'il y a un peu partout des mécanismes qui sont en fait des mécanismes de désignation qui ressemblent aux prix littéraires, qui sont des défis lectures, qui sont toutes sortes de manifestations internes aux classes ou aux établissements, lors desquelles les élèves opèrent ces choix. Et donc se pose un certain nombre de questions qu'on se pose quand on est juré d'un prix littéraire.
Mais ce sont les professeurs qui sont à l'initiative de ça ?
Ça peut être les documentalistes, d'accord. Ça peut être les professeurs. On n'entend pas.
Donc ça devient quand même un outil pédagogique parmi d'autres.
Ça devient un outil pédagogique.
C'est ça. Ouais. Donc une forme de médiation pédagogique. Et non pas de médiatisation. C'est un peu la différence qu'on peut peut-être voir avec le Goncourt des lycéens qui est très, très médiatisé et qui vient de l'univers commercial.
Mais je crois que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi sur le Goncourt des lycéens.
Non,
de toute façon.
Je ne suis pas d'accord. Mon expérience remonte sur le prix Goncourt des lycéens, on va dire entre 92 et 2002.
Il a été créé quand ?
Il a été créé en fin des années 80. Donc,
d'accord, oui. C'est long.
Il a 23 ans, 24 ans cette année.
À l'initiative de la FNAC.
À l'initiative de la FNAC.
Qui est très présente.
Bah oui, c'est normal, c'est l'organisateur du prix. Donc, et mon expérience pendant 10 ans, c'était justement... on se faisait un peu taper sur les doigts parce que justement, la FNAC n'était pas assez présente. On parlait du prix Goncourt des lycéens et on ne savait absolument pas que la FNAC était derrière toute l'organisation. Donc je ne veux pas avoir l'air de défendre à la FNAC, mais sur ce prix, moi, c'est vraiment une de mes très belles, de très belles expériences vécues à la FNAC, c'est ce prix Goncourt des lycéens, justement. Parce qu'enfin, je trouvais qu'il y avait du sens dans une opération de grande envergure où la FNAC se préoccupait aussi, à un moment donné, d'accès à la littérature auprès de lycéens. Et il faut savoir que chaque classe participante reçoit de la part de la FNAC un lot de livres. Donc, il y a de l'argent investi et la médiatisation de ce prix dont vous parlez, elle arrive bien plus tard. C'est-à-dire que pendant 10 ans, nous, on avait extrêmement peu de papier dans la presse. Mmh. C'était pas médiatisé. Le prix était décerné à Rennes parce que ça... en fait, démarrer à la FNAC de Rennes. Aujourd'hui, oui, on commence à effectivement...
Vous vous souvenez quel livre ? Si c'est lié à un livre particulier qui a été particulièrement promu ?
Le premier, non, je m'en souviens.
C'est pas lié à la nature du livre ?
Mais ce qui est... Alors, que dans les établissements qui sont... Alors, les établissements, ce n'est pas la FNAC qui les choisissait ou qui les choisit. Il y a un partenariat avec les académies, avec le rectorat, etc., qui, à un moment donné, dit, bah voilà, tiens, ça serait bien de mettre le lycée professionnel machin cette année dans la ville truc, et le lycée technique chose, et le lycée généralement. Et puis après, dans chaque établissement, c'est le chef d'établissement qui... voilà, qui... Donc, j'ai envie de dire, c'est un peu comme une classe verte ou une classe de neige. Dans un établissement, bah, y a une classe qui, l'année untel, a le bénéfice de partir en classe verte ou en classe de neige. Alors oui, pendant une année, bah, c'est la classe de CE2 de Madame Machin qui est un peu sous les feux de la rampe dans l'établissement. Bien sûr, pour le concours des lycéens, c'est exactement la même chose. Le professeur qui a été désigné par chef d'établissement, qui a eu la chance d'avoir le recteur qui lui apprenne que c'est en fait son établissement qui va faire partie de cette année du prix Goncourt des lycéens, il va être plus mis en avant. Mais à un moment donné, on ne peut pas non plus démultiplier. Enfin, c'est très compliqué. Et tous les prix littéraires, jeunesse et autres, qui fonctionnent sur le même principe, ça, voilà, fonctionne de... Donc, je ne pense pas que ça soit particulier au prix Goncourt des lycéens, le fait qu'à un moment donné, il y ait une classe qui soit un peu plus mise en avant qu'une autre. Par contre, parler avec des professeurs qui ont eu la chance de participer à cette aventure. Et vous verrez, en général, combien ils étaient heureux, je crois, d'une aventure qui, à un moment donné, brasse de la littérature contemporaine, déjà, et puis qui fait que, oui, il y a une espèce de défi, d'enjeu, pas médiatique au début. Bien sûr, on est dans un... Tout prend, un essor médiatique, enfin, dans les choses. À un moment donné, quoi, voilà. Mais il a vraiment fallu du temps avant que ce prix ait un essor médiatique. Par contre, c'est un prix qui, effectivement, très rapidement, a eu un impact sur les ventes. C'est-à-dire que il y avait le bandeau, je me souviens, donc la FNAC faisait imprimer les bandeaux à prix Goncourt des lycéens pour que ça soit mis sur les couvertures du livre qui avait reçu ce prix. Et très vite, il y a une espèce de bouche à oreille qui a fonctionné en disant « Ah, au moins, on a des jurés, des lycéens qui ne sont pas corruptibles, qui ne font pas partie du milieu littéraire et qui ne vont pas être influencés par telle maison d'édition ou telle autre. » Ce qui est vrai. Et quand je dis que c'est une très belle expérience, c'est qu'à chaque fois, pendant 10 ans, j'ai été surprise par le choix des lycéens. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Je crois que c'était en 94 ou 95. Donc, restaient en lice pour ce prix deux auteurs radicalement opposés ou très, très différents. Il y avait Didier Kovlart avec un bouquin plutôt facile à lire. Je ne me souviens plus du titre, mais enfin, une histoire d'adolescent plutôt sympa. Enfin bon. Et de l'autre côté... Claude Pujade-Renaud, qui n'était déjà à l'époque n'était plus une jeune femme, et qui avait fait paraître son roman qui s'appelait Belle-mère, et qui racontait une histoire d'amour entre deux vieilles personnes. Tout le monde était là, bon, bah, c'est Kovlart qui va l'avoir, quoi. Bah, bien évidemment, encore une fois, les lycéens ont choisi la qualité, l'originalité, la sensibilité, parce que. Voilà, on est plus dans la lecture plaisir à ce moment-là. Et ils ont choisi de décerner le prix à Claude Pujade-Renaud. Moi, à chaque fois, j'ai été bluffée par le choix de ces lycéens. Alors, moi, j'ai envie de dire, oui, ce prix, il a un intérêt profond, je pense.
Si je peux juste... Oui, juste revenir là-dessus. Non, ce que je voulais juste dire, c'est j'entends très bien. En même temps, l'originalité du choix des lycéens se fait à l'intérieur d'une sélection, qui est la sélection Goncourt, donc la diversité éditoriale n'est pas présente.
Oui, mais c'est un choix qui a été fait au départ. Je ne sais pas très bien comment et pourquoi, mais bon, on est parti. Oui, ils partent de la première liste.
Voilà. Mmh. Et puis, deuxièmement, pour ce qui est le dispositif lui-même, c'est vrai que, parce que vous disiez, on peut pas faire, c'est comme une classe verte. En fait, on voit très bien que les établissements trouvent des tas de moyens, justement, d'organiser des médiations qui impliquent la totalité de par exemple, des classes, qui évitent en tout cas que...
La totalité que des classes de français dans un lycée. Alors là, moi, je veux bien que vous me donniez des...
Non, mais qu'en tout cas, ne soit pas décrite, comme l'a été souvent parlé par les professeurs organisateurs eux-mêmes, cette sensation que le reste de l'établissement était privé de, de la manifestation.
Oui, mais...
Donc ça s'oppose de ce point de vue-là au caractère assez obscur des médiations dont j'ai parlé, enfin qui sont...
Il ne me semble pas qu'il y ait d'obscurité particulière sur ce prix.
Non, quand je dis obscur, je fais allusion au fait que certaines des médiations autour des prix, on ne les connaît même pas parce qu'elles elles ne se font pas connaître. Là, il y a à la fois une très très forte médiatisation et en même temps, il y a cette façon d'isoler des élèves.
Oui, enfin, si vous voulez, mais isoler les élèves, il me semble que c'est de fait, quoi. Difficile de faire participer l'ensemble des classes de français d'un grand lycée.
En tout cas, non, ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est que la FNAC est continuée.
Oui, malgré...
C'est-à-dire que la FNAC considère que dans son dispositif de communication, c'est une chose intéressante. Donc, ce qui, je trouve, paradoxalement très intéressant au moment où l'école est tellement en difficulté, c'est que c'est vrai, il y a la dimension... Le commerce entre dans l'école, avec les conséquences que l'on connaît, mais...
Bien sûr.
Mais l'école reste quand même, pour les gens du commerce culturel en tout cas, le critère. C'est ça qui est amusant, c'est ça qui est intéressant. Si la FNAC n'avait pas ça en tête, elle changerait de lieu. Mais la vérité, c'est qu'on est dans du marketing. Alors juste une remarque sur le marketing, par rapport à l'anecdote que vous donnez, parce que ça fait partie de la médiation aussi, mais là du côté des éditeurs. Le préjugé vraiment incroyable des éditeurs et qu'ils ont multiplié ces dernières années, c'est que le lecteur veut absolument avoir un livre en miroir avec lui-même. Hein? Donc on donne aux enfants de 3 ans des histoires d'enfants de 3 ans, aux enfants de 18 ans, aux ados de 18 ans, etc., et aux gens de 80 ans, des gens de 80 ans. Mais tout ça est totalement mélangé et c'est très souvent que remonte de la part des professionnels du livre de terrain l'anecdote que vous racontez là, ce type d'anecdote. C'est-à-dire que il n'est pas vrai que les gens jeunes aujourd'hui veulent des histoires de gens jeunes. Ils veulent des histoires qui les aident à se construire. Donc très souvent, les profs le remontent souvent. Dans d'autres débats, j'ai souvent entendu ça, les profs disant « mais non ». Les histoires de vieux et les histoires de vie très longues les intéressent.
Oui, bon,
ça fait partie de la médiation et des erreurs marketing, justement.
Exactement.
Sur l'implication de la FNAC, juste un tout dernier mot pour dire que ce qui est un peu surprenant aussi, mais le débat ne porte pas sur le concours des
sciences,
c'est l'absence de sensibilité des enseignants, néanmoins, au fait que c'est une grande surface qui entre dans leurs murs et qu'il ne s'agit pas de librairie indépendante. Hein, que c'est vraiment une grande surface qui rentre dans les murs de l'école avec un discours de grande surface et donc de promotion aussi de la marque qui peut surprendre quand on sait la frilosité des enseignants par rapport à...
Mais justement, c'est parce que la FNAC n'a pas tambouriné... il n'a pas martelé, à mon avis, sa marque à l'intérieur des établissements que ça fonctionne encore aujourd'hui.
Oui, ça c'est là, ça c'est le, oui, voilà, ça c'est l'adresse
commerciale.
C'est vrai que c'est...
Pour le coup, c'est alors bien sûr que c'est une opération commerciale,
Enfin
marketing ou de promotion ou autre, hein, mais elle intervient en fait en bout de course au moment de l'annonce du prix, pendant, j'ai envie de dire, la période de lecture dans les établissements. Je veux dire, moi qui ai vécu ça vraiment de près pendant 10 ans, j'ai jamais tellement entendu parler de FNAC dans les établissements ou dans les classes. Ce qui est intéressant, c'est de parler de tel auteur, que t'as lu tel livre, etc. La FNAC, elle intervient une fois en classe quand elle apporte le lot de livres. C'est peut-être aussi pour ça que cette opération, elle continue.
Oui, et puis après, il y a les valeurs de marque. La FNAC a une valeur de marque très, très institutionnelle.
Oui,
donc, elle est très proche d'une sorte d'université. Et il faut être un professeur critique une pure grande surface. Mais elle a son image de marque. Mais bon, on laisse un peu la FNAC de côté,
oui,
la pauvre, parce que ça ne marche pas si bien que ça, finalement, FNAC, au global, nous le savons. Ce serait bien que vous nous racontiez un peu votre expérience au Festival du Premier Roman, parce qu'on va retrouver un peu ces thèmes-là aussi, parce que j'ai vu sur votre site que les établissements scolaires sont extrêmement sollicités.
Oui.
Alors, comment ça se passe? Alors, racontez-nous un peu ce que c'est d'avoir ce Festival du Premier Roman.
Alors, il faut que je parle dans le... Oui. Donc, le Festival du Premier Roman de Chambéry... En fait, je vais vous raconter la vie de Chambérien, très exotique, autour du livre. Donc l'aventure a démarré il y a 23 ans par un professeur. Souvent ça démarre comme ça. par un professeur dans un lycée technique avec des classes de garçons et qui n'arrivait pas à boucler le programme de français parce que il avait beaucoup de mal à faire en sorte que ses élèves lisent. Donc avant d'aborder Voltaire, Montaigne ou autre, il fallait commencer par l'acte de lecture. Donc il a réfléchi à ça et il s'est dit, bon, commençons peut-être autrement par de la littérature contemporaine, en se disant peut-être que ce sont des livres plus proches d'eux et où il y aura, voilà, où ça va accrocher un peu plus. Mais oui, mais quoi dans la littérature contemporaine? Alors on pourrait prendre la liste du concours, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il s'est dit, pour être le plus dans l'acte de lecture, partons sur des premiers romans, où on est absolument hors star system, on démarre avec des gens inconnus, des œuvres dont personne ne parle, et où ça va mettre le professeur et les élèves au même niveau. C'est-à-dire que donc, tout le monde va s'emparer de quelques premiers romans, et puis tout le monde va partir dans une véritable expérience de lecture. Et il n'y a que ça. Et donc, professeurs et élèves sont partis voilà, dans la même expérience. Donc, une première expérience collective hein, de lecture. Et puis, ça a très, très bien marché. Et donc, en fin d'année, il a invité, je crois, un auteur dans sa classe. Ça a démarré comme ça. Et puis, l'année d'après, il a continué. Puis ensuite, il s'est dit quand même... un peu bête, ça serait peut-être, on pourrait peut-être faire grossir un peu les choses. Il a été voir le directeur de la bibliothèque de Chambéry de l'époque, qui a trouvé l'idée intéressante. Et il y a un groupe de lecture donc d'adultes qui s'est mis en place à la bibliothèque de Chambéry. C'est donc les élèves de ce professeur et ces quelques adultes de ce comité de lecture dans la bibliothèque se sont mis à lire les mêmes auteurs de premiers romans. Et puis, à la fin, voilà, ils ont brassé ensemble, ils ont débattu, et puis ils se sont mis d'accord en se disant, ben, on a envie, cette année, de faire venir deux auteurs, et les deux auteurs, ils ont été choisis par les lecteurs, jeunes et adultes. Voilà. Et puis maintenant, on en est 23 ou 22 ans plus tard. On a un festival donc, qui a cette grande spécificité, qui est unique en France, où les auteurs invités sont des auteurs choisis exclusivement par des lecteurs. C'est-à-dire que moi qui dirige ce festival, je fais rien en fait. J'orchestre, voilà. Je découvre au mois de mars les auteurs que je vais accueillir au festival. C'est assez étonnant. Donc aujourd'hui, nous avons un réseau de 2800 lecteurs. C'est le plus gros réseau de lecteurs attachés à une manifestation littéraire en France. Je parle en France. Hein. Donc, un réseau de 2800 lecteurs, composé, on va dire, pour aller dans les grandes lignes, moitié de jeunes, donc collégiens, lycéens et étudiants en fac, et moitié donc d'adultes qui lisent des premiers romans qu'une petite équipe a présélectionnés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la production française, on déborde un tout petit peu avec un petit peu de production belge et suisse. Mais on reçoit donc en un an environ 200, 250 premiers romans. Voilà. Donc, nous sommes un groupe de bénévoles dont je fais partie. Et nous nous attachons à lire les 200 ou 250 premiers romans. Chaque livre est lu deux fois pour qu'il y ait un avis concordant. Et en fait, on ne fait pas une sélection. J'ai plutôt envie de parler, pardonnez-moi pour le terme, mais plutôt d'écrémage. Quand tout à l'heure, on disait qu'il y avait 63 000 parutions dans une année, 200, 250 premiers romans, il y a besoin d'écrémage. C'est-à-dire que notre lecture est juste là pour que nous mettions en fait en lecture des premiers romans qui juste tiennent un peu la route, quoi. C'est-à-dire que l'année dernière, on a mis en lecture 102 premiers romans. Cette année, on va mettre en lecture 72, je crois, premiers romans. Donc ça dépend voilà, des années. Et ça fait pas très longtemps que je m'occupe de ce festival et j'ai été... sidérée par la production affligeante, désolante, catastrophique de premiers romans qui, enfin, bon, qui ne devraient pas être publiés, il me semble. Mais bon, donc voilà, nous sommes obligés de faire ce travail. Ensuite, eh bien, nous mettons en lecture donc, voilà, cette liste, ces premiers romans. Ils sont mis en lecture donc, auprès de ces 2800 lecteurs. Donc, ça marche par groupe, en fait, de lecture, donc ce qu'on appelle des comités de lecture. Donc, ce sont des groupes de personnes, entre 15 et 25 personnes, qui lisent des premiers romans et qui se regroupent, se rejoignent, se rencontrent tous les 15 jours, de manière extrêmement régulière, pour débattre. Donc, c'est là où, en fait, l'expérience de lecture devient collective. Donc là, on est vraiment dans le sujet de la médiation collective. Bien que le terme de médiation, en fait, moi, je l'emploie pratiquement jamais. Comme Monsieur Jourdain dans Le Bourgeois Gentilhomme. Je ne savais pas que je faisais de la médiation collective. Et donc, tous ces groupes de lecteurs qui sont disséminés en Savoie, Haute-Savoie, Rhône-Alpes, bientôt à la BPI pour les Parisiens, il y a un groupe de lecture qui devrait se mettre en place au mois de mars. Dans le Nord, enfin bon, bref, on arrive à essaimer de plus en plus. Donc, tous ces groupes de lecture, voilà, lisent, débattent et donc se retrouvent. Et au fur et à mesure des rencontres, donc la saison de lecture va de septembre à mars environ, au fur et à mesure de ces rencontres, on s'aperçoit, et les gens nous le disent, que les avis de lecture deviennent de plus en plus aiguisés. Il n'y a pas de formation. On n'est pas là pour former les gens à la critique ou à leur dire c'est comme ça qu'il faut lire. Attention, il ne faut pas oublier la structure. Attention au langage, etc. Il n'y a pas que l'histoire qui compte. Bon, ça vient en fait de soi par le phénomène de groupe. Donc c'est pour ça qu'on tient absolument à ce que ce soit des gens mais qui lisent, qui soient amateurs de livres, amateurs aussi d'aventures parce qu'on ne sait pas tout à fait exactement ce qu'on lit. On ne connaît pas les gens. Mais voilà, qui ont envie à un moment donné d'échanger, de débattre. Et à la fin de cette saison de lecture, alors nous on est là pour animer aussi ce réseau, organiser des forums, il y a aussi en live à différents moments de l'année, il y a un forum de discussion sur internet, etc., pour que les gens puissent partager leurs avis de lecture, même s'ils sont éloignés les uns des autres. Bref, on a tout un tas de dispositifs pour animer ce réseau. Mais enfin, voilà, au bout de quelques mois de lecture, en mars, on demande à chaque groupe de se prononcer et de voter pour leur titre favori. Pour 7 titres. On ne demande pas un titre, on demande 7 titres. Et c'est extrêmement important pour nous de se dire on ne demande pas un vote individuel. On continue d'être le plus cohérent possible avec notre projet, qui est de dire on veut absolument que ce soit le groupe qui se prononce collectivement pour un choix de 7 titres. Donc ça, c'est début mars. Donc début mars, on reçoit les votes de tous nos groupes de lecteurs, que ce soit des groupes adultes ou des groupes jeunes. Et dans ces cas-là, les groupes, ce sont des classes, le plus souvent des classes de français, mais je reviendrai sur un aspect un peu plus international peut-être après. Et donc, ça forme un palmarès. Moi, je me contente de prendre les 15 premiers et je les invite au festival. Et après, j'ai 2 mois, à peu près, 2-3 mois, pour organiser un festival à Chambéry. Donc, c'est un festival, c'est pas un salon, c'est vraiment un festival où l'objet est la rencontre entre des auteurs choisis par des lecteurs et donc une rencontre entre des auteurs et les lecteurs qui les ont choisis. D'où, bien évidemment, un festival plutôt sympathique, parce que chaleureux, les rencontres avec les auteurs sont extrêmement attendues. Les auteurs savent que s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont été choisis par 2800 lecteurs. Pour un auteur de premier roman, c'est pas si mal que ça. Enfin, voilà, pour avoir assisté à quelques festivals à Chambéry, j'ai toujours trouvé que ces rencontres étaient particulièrement chaleureuses, extrêmement vivantes, les lecteurs festivaliers du moment sont, ont plein de questions à poser, puisqu'ils ont vraiment lu le livre, ils attendent l'auteur, et je vous promets qu'ils l'attendent pour leur poser des questions. Donc, voilà un festival qui s'intéresse à quelque chose de difficile. Des auteurs de premiers romans, des gens dont personne n'a jamais entendu parler. Dans la presse, au moment de la rentrée littéraire, il y a environ 2-3 auteurs de premiers romans qui ont quelques papiers, mais c'est tout, quoi. Le reste, inconnu au bataillon. Donc, comment imaginer un festival qui s'intéresse à des auteurs de premiers romans et qui a en fait un public, si ce n'est par une médiation collective en amont? Ce festival n'existerait pas. Et d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, l'idée de départ n'est pas de créer un festival autour de la littérature émergente ou tout ce qu'on pourrait dire là-dessus, mais c'est bien de dire l'objet de la structure, c'est de promouvoir la lecture, l'accès à la lecture pour tous, et ça c'est très important, peut-être je reviendrai aussi là-dessus tout à l'heure, promouvoir la lecture auprès de tous via le premier roman. Et à partir de là, on peut travailler sur des primo-romanciers, sur une littérature émergente, sur des auteurs en devenir, quoi. S'il n'y avait pas cette médiation avant, ça ne serait pas possible. Donc voilà, le festival se déroule pendant 3 jours en mai. Et donc nous invitons des auteurs de premiers romans français, francophones. Et puis nous avons développé depuis quelques années le même dispositif sur le premier roman, on va dire, européen. En se disant, mais il n'y a pas que quand même les premiers romans, des auteurs de premiers romans français qu'on pourrait inviter. Et donc, l'histoire entre la Savoie et l'Italie étant assez complexe et en même temps assez forte, donc le festival s'est tourné vers l'Italie comme premier pays pour développer ce dispositif. Et donc, aujourd'hui, nous avons des lecteurs italianistes qui lisent en langue d'origine, donc en italien, des premiers romans italiens qui ont été choisis par un partenaire. Parce qu'on a un partenaire en Italie qui fait à peu près le même travail que nous et qui présélectionne pour nous un certain nombre de romans, de premiers romans italiens, qui sont mis en lecture auprès de ces italianistes. Ces italianistes font exactement la même chose que les lecteurs français, enfin, qui lisent en français. Donc, ils lisent des premiers romans italiens, ils débattent, ils se retrouvent, ils votent et sont invités au festival 2 auteurs italiens qui sont, ont été choisis par des lecteurs qui lisent en italien. On fait la même chose en espagnol et on a ouvert cette année à l'Allemagne et donc on a plusieurs groupes de germanistes qui lisent des premiers romans en allemand, et on va accueillir cette année 2 auteurs italiens, un auteur de premier roman de langue espagnole et un auteur de premier roman de langue allemande. Et puis le dispositif peut continuer sur le même principe avec d'autres pays. Et puis, ça donne un petit caractère européen, cette histoire, et on s'aperçoit aussi que pour le coup, ça a une influence sur les traductions. J'ai regardé avant de venir un peu, je faisais le compte. J'ai pris l'Italie parce que c'est ce qui est le plus significatif aujourd'hui. Depuis une quinzaine d'années environ, ont été reçus au festival 34 auteurs de premiers romans italiens. Et sur ces 34 auteurs de premiers romans italiens, 14 ont été traduits en français. Et en fait, c'est super pour les éditeurs. On leur offre une étude de marché en live.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est très intéressant. Ils savent que tel auteur a été choisi par X lecteurs qui ont déjà fait cette démarche. Et bien après, il suffit d'aller flairer un petit peu et puis d'affiner les choses et de se lancer dans des traductions. Donc, pas inintéressant.
Non, juste une petite question, parce que vous disiez que on parlait peu du premier roman, mais on en parle quand même. Pardon. On parle quand même plus désormais du premier roman. Je me demandais quel impact ça avait sur la manifestation.
aucune. on en parle un tout petit peu plus, mais c'est vraiment un tout petit peu plus. Et il faut déjà être vraiment amateur de littérature contemporaine pour dénicher dans l'ensemble des critiques que tel auteur est un auteur de premier roman, quoi. Donc ça joue pas, quoi. Véritablement sur le lectorat, ça ne joue pas.
Vous avez quand même de la presse locale, j'imagine, de la médiatisation.
Au niveau du festival ?
Oui.
Oui, on a la presse locale qui
la ville est très impliquée, non ? La ville, le département.
Alors, on est soutenu par différentes strates de l'État, région, département, ville. Bien sûr, la ville est très impliquée. Aujourd'hui, la ville demande plus. Elle veut que ça soit beaucoup plus médiatisé.
Oui, les médias ne s'intéressent pas assez.
Si, je commence à travailler. Ils
s'intéressent, très intéressant. Ah, oui, d'accord.
Oui, okay. Mais c'est compliqué avec les médias, parce que quand je vais discuter avec des journalistes, on va dire de presse, la presse nationale, à un moment donné, mon discours sur ce que je viens de vous raconter, sur la médiation collective, le lectorat, le fait que c'est choisi par les lecteurs et tout, ils en ont un tout petit peu, excusez-moi, mais rien à faire, quoi. Ce qui les intéresse, c'est de savoir qui on a reçu et qui on a déniché dans les années précédentes pour avoir un peu du grain à moudre, ce que je comprends.
Là, vous pensez à quoi ? Quand vous dites presse nationale, c'est quoi, les magazines ?
Magazines et PQN, enfin, presse quotidienne nationale, quoi.
Oui, c'est ça.
Et
oui,
Newsmag,
voilà.
Oui,
mais bon.
Donc, en gros, on me dit, alors, quels auteurs vous avez déniché ?
Oui, il faut que vous travailliez avec...
Il faut, en gros, il faut justifier le choix des lecteurs.
Oui, parce qu'ils n'ont pas...
Donc, on est moins sur... Enfin, moi, je trouve un dispositif qui est extrêmement intéressant et pour le coup unique que sur du festival tout venant.
Non, mais vous êtes en avance par rapport.
Donc, en fait, moi, j'ai l'impression qu'on est dans du web 2.0 depuis le début de cette histoire.
Oui, et puis du local. C'est-à-dire que la tendance, l'inscription dans le local est extrêmement importante aujourd'hui. Et la presse nationale ne l'a pas bien intégrée encore. Donc, vous avez... Bah oui, donc ça, c'est...
Mais en fait, ça passera par la... J'ai l'impression qu'on est en avance.
Bah oui.
Alors qu'il y a quelques années, les comités de lecture, tout le monde trouvait ça ringard. Aujourd'hui, quand je regarde un peu, je fais un peu une veille sur l'ensemble des festivals littéraires où on peut se comparer. Aujourd'hui, pratiquement tous les festivals ont au moins un comité de lecture, quoi.
Non,
il y a quelques années, c'était absolument pas le cas.
Le phénomène des comités de lecture, des cercles de lecture, etc., est très en progression. C'est vraiment quelque chose de très important. Donc vous étiez en avance, mais ça pose la question de la médiation, même si vous ne vous reconnaissez pas tout à fait dans le mot, par opposition à la médiatisation. Donc on est en train de découvrir aujourd'hui les limites d'une forme de médiatisation. La presse nationale dont vous parlez se porte très mal. Et émergent au contraire des formes de médiation qui sont des rencontres beaucoup plus directes entre les gens qui remettent en cause les experts patentés et apportent leur propre expertise. Donc ça, c'est un phénomène général dans la société qui touche tous les marchés, et celui du livre en particulier, mais c'est partout. Donc quand vous dites on n'est pas assez médiatisé, c'est que les médias ne sont pas dans le même paradigme, mais ils sont en retard. Mais vous en êtes victime. Donc il faut travailler avec les médias locaux. Et puis Internet.
Oui,
ce que vous faites.
Oui, tout à fait. Et ce qui est très important aussi, je terminerai là-dessus, c'est que... depuis le début, la structure a toujours refusé de concevoir un prix littéraire.
Oui,
c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est de se dire, OK, on a 14 auteurs français et autres. S'ils sont là, à un moment donné, maintenant qu'ils sont là au festival, ils sont tous à égalité. Ils ont tous gagné, quoi. Voilà. Et ça crée aussi une autre ambiance.
Oui.
Parce que, voilà, à un moment donné, ces auteurs sont tous contents de se retrouver, de se trouver, d'échanger. Voilà, ils ont beaucoup de choses à partager en commun. Et on est tranquille. On est là entre auteurs, avec des lecteurs. Et il n'y a plus de compète.
Non. Ah, ben, on sait maintenant où aller en vacances, Chambéry. L'endroit où il n'y a pas de compétition.
Voilà.
Ah oui, avant de donner la parole...
Non, je suis désolée. Est-ce que les lecteurs se sentent plus proches de premiers romanciers, moins intimidés par des premiers romanciers qu'ils ne le seraient par des auteurs confirmés ?
Je ne suis pas sûre que ça joue beaucoup, en fait. Je crois qu'ils sont proches des auteurs qu'ils ont aimés. Donc, j'ai pas l'impression que ce côté intimidation joue particulièrement parce que ce sont des auteurs peu connus. Quand je les vois poser des questions, je pense qu'ils poseraient à peu près les mêmes questions si ce phénomène, enfin tout ce que je viens de raconter sur cette médiation, enfin cette expérience de lecture collective se faisait de la même façon si on invitait des auteurs connus ou reconnus, quoi. Justement, je crois que ça permet une proximité et une désintimidation par rapport à un auteur et une
dépeuplisation.
Voilà, exactement. Ouais. Parce que pour le coup, on n'est vraiment pas là-dedans, quoi. Ouais. Et voilà, ça parle du livre, ça parle de littérature, ça pose des questions assez pointues.
Ouais. C'est une belle expérience. De médiation ou parfois d'amédiation. Oui, ça fait réfléchir. Alors, Agnès Camus-Viguet, vous allez nous parler un peu d'autre chose, mais ça rejoindra peut-être la question du rapport direct au livre que vous observez quand vos étudiants, quand vos lecteurs viennent à la BPI. Alors, vous avez regardé particulièrement ce qu'ils font avec leur ordinateur portable quand ils viennent ici. Alors, qu'est-ce qui se passe ?
Oui, alors j'espère que mon propos ne va pas être trop décalé parce qu'on va sortir du vif du débat et pour retourner à une forme un petit peu plus classique de conférence. Et je retourne à l'univers de la bibliothèque. Mais effectivement, alors d'abord je voulais dire que de mon point de vue de sociologue, le terme de médiation, je l'entends pas seulement dans le sens où ça a été utilisé jusqu'à présent, c'est-à-dire des pratiques, des métiers qui vont favoriser la mise en relation entre les livres et des lecteurs, mais au sens où un sociologue qui s'appelle Antoine Aignon l'a utilisé, c'est-à-dire un concept finalement qui va faciliter la compréhension de notre monde social parce qu'il exerce un effet de zoom sur les activités, sur le rôle actif des médiateurs qui peuplent notre monde social. Dans le domaine de la culture, il n'y a pas, me semble-t-il, une offre culturelle d'un côté et sa réception de l'autre, hein, comme les deux moitiés d'un fruit qui serait séparé par une frontière. Mais il y a des agents qui travaillent à la production de ce monde en se saisissant de ce qui existe, de ce qui est déjà là. Ils vont opérer des déplacements, des traductions. Par exemple, à la bibliothèque, des usagers qui viennent écouter des conférences, et bien, ils vont utiliser ensuite ce qu'ils ont entendu sur leur blog ou alors dans des ateliers d'écriture pour à leur tour produire quelque chose, produire du savoir. Donc c'est par cette série de traductions, de déplacements que la bibliothèque est un lieu de production de savoir. La bibliothèque, en tant que lieu de médiation, est un lieu de production de savoir. Donc je déplace un petit peu la question de la médiation. Alors effectivement, on m'a demandé de rendre compte d'une enquête que je réalise actuellement sur les usagers des ordinateurs portables, un objet qui médiatise l'écrit. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'on assiste à une explosion de l'usage des ordinateurs portables. À la bibliothèque publique, donc à la BPI, il y a un usager sur quatre qui utilise des ordinateurs portables aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça va apporter, qu'est-ce que ça va changer dans la question de la production du savoir ? Eh bien, l'ordinateur portable va apporter une plus grande marge de jeu dans la chaîne de traitement de l'information, et cette marge de jeu va favoriser la production de savoir. Alors, pour mieux comprendre en quoi consiste cette marge de jeu, il faut tout d'abord faire un retour sur cet objet. Qu'est-ce qui permet ? C'est un objet qui va permettre, donc l'ordinateur portable, de faire beaucoup de choses liées au calcul, à l'écriture, grâce à un certain nombre de logiciels, Word, Excel. Mais c'est aussi un objet nomade, au sens où il va permettre de se greffer sur l'accès à Internet, qui a été mis à la disposition des usagers dans les bibliothèques pour sa fonction documentaire. Seulement, une fois qu'on a introduit le loup dans la bergerie, si je puis dire, eh bien, on n'est pas certain que les usagers vont effectivement ne faire que de la documentation. Alors,
ça. Il y en a certains qui ne vont pas faire que ça.
Non, on va le voir. Mais En fait, ils sont assez sages, vous allez voir les usagers des ordinateurs portables. Ils font quand même essentiellement des activités qui sont liées à ce qui doit se faire en bibliothèque. On va voir ça. Le fait de venir avec son propre ordinateur portable, ça va permettre de s'affranchir des supports traditionnels que sont les feuilles de papier, les cahiers, les stylos, mais aussi de contourner plus radicalement encore les dispositifs qui sont mis à disposition des utilisateurs par les bibliothèques, par exemple le catalogue. Le catalogue n'est plus seulement consultable sur les postes informatiques de la bibliothèque, mais via son propre ordinateur portable, ce qui permet non seulement de ne pas avoir à se déplacer, tout simplement, mais de faire du copier-coller et de faire sa propre bibliographie. Et puis, on peut tout simplement se passer de ce qui est mis à la, disposition par la bibliothèque, du catalogue de la bibliothèque, puisque certains usagers ne se connectent absolument pas aux ressources qui sont locales dans la bibliothèque, mais vont travailler uniquement à partir des catalogues d'autres bibliothèques. Il y a un usager que j'ai rencontré qui, lui, vient travailler à la bibliothèque parce qu'il apprécie cet endroit comme espace de travail. On va voir tout à l'heure pourquoi. Mais il ne travaille qu'avec le catalogue de sa bibliothèque à Paris 8 en littérature. Alors, c'est un objet nomade qui va permettre à l'utilisateur de se sentir partout chez lui. Alors, je cite des paroles d'usagers, de jeunes usagers. Dans mon ordinateur, j'ai toutes mes affaires, nous dit un lycéen. Une étudiante se fait l'écho de cette même idée. Elle dit, vraiment, le portable, c'est notre lieu de travail. C'est là-dessus qu'on entrepose nos données, nos documents. Donc, de pouvoir avoir ça avec nous, c'est bien. Donc, il est possible, finalement, de ne pas se séparer physiquement d'objets qui sont fortement investis et qui renvoient une part intime de soi. Et c'est sans doute pour ça qu'il est difficile maintenant, aujourd'hui, d'imaginer de donner accès à la bibliothèque en coupant le Wi-Fi, puisque c'est essentiellement, pour l'instant, on peut avoir accès sous forme Wi-Fi ou sous forme filaire à Internet en bibliothèque. Mais quand on dit dans la file d'attente qu'on coupe, qu'il y a pour des raisons techniques, il n'y a pas d'usage Wi-Fi, eh bien beaucoup de gens quittent la file d'attente alors qu'ils avaient quand même attendu pendant un moment. Alors, quels vont être les effets de l'importation de cet objet hybride dans notre espace public? Est-ce que finalement les frontières entre l'espace privé et l'espace public vont totalement voler en éclats? Eh bien, nos observations nous enseignent plutôt autre chose. En effet, même si l'ordinateur portable offre une grande marge de manœuvre, puisqu'on peut écouter la radio, on peut visionner un film, pratiquer un jeu vidéo, consulter sa messagerie, eh bien, les utilisateurs ne s'engagent pas pour autant dans toutes ces activités. Il y a une jeune fille, par exemple, qui dit ne jamais fréquenter le site Facebook parce qu'elle ne veut pas perdre du temps de connexion. Elle veut se livrer à ses activités. Il y a un monsieur aussi qui vient faire son master de littérature qui me dit qu'il ne regarde jamais la télévision à la bibliothèque, alors qu'il pourrait le faire. Les jeunes gens, finalement, ne jouent pas tant que ça, aux jeux informatiques. Ils sont pourtant friands de jeux en ligne, mais ils s'interdisent ce type de passe-temps à la bibliothèque. Alors, qu'est-ce que ça offre comme possibilité? Eh bien, ça permet de distribuer son activité en des lieux différents qui vont de l'espace privé du domicile à la station publique dans la bibliothèque. Et les usagers, finalement, vont s'emparer de cet objet pour aménager ce que Dominique Boulier et Franck Guitala nomment la chaîne de production et de traitement de l'information. C'est une chaîne qui est personnalisée, par laquelle on va extraire de l'information et la traiter, et puis qui est répartie dans l'espace, mais aussi dans le temps. Effectivement, quand on est un petit peu attentif à ce qui se passe sur le terrain, on se rend compte que les usagers, finalement, ils veulent rentabiliser, optimiser leur gestion du temps. Alors, il y a une façon traditionnelle de l'optimiser, c'est ce que fait par exemple un usager qui vient de Tel Aviv, c'est un chercheur d'université de Tel Aviv, il vient passer 2 mois à la bibliothèque l'été, donc il fait plein de documentation, il prend des notes manuscrites, et puis, revenu chez lui, il ressaisit ça, il ressaisit ses notes, et puis il en fait en même temps une petite analyse. Bon, ça, c'est une façon assez traditionnelle. On assiste beaucoup maintenant, effectivement, on voit ce que font les jeunes, ils ne font pas ça, ils saisissent directement des notes sur leur micro-ordinateur. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus contemporain, on va dire. Mais il y a d'autres méthodes de travail qui répartissent les choses tout à fait différemment, qui répartissent ce qui se fait à la maison, à la bibliothèque, différemment. Et je vais vous parler d'une méthode de travail qui a été mise au point, justement, par un groupe de lycéens une méthode de travail collective qui implique des séjours prolongés à la bibliothèque. Ces jeunes lycéens, qui sont en terminale de génie civil, scannent tout d'abord chez eux des chapitres de leur manuel scolaire. Et puis, ils se retrouvent à la BPI pour échanger leurs fichiers. Et l'un d'eux se porte volontaire pour réaliser des fiches synthétiques qui sont ensuite utilisées par le groupe pour pratiquer collectivement des exercices. C'est-à-dire qu'ils vont, donc ils scannent, ensuite ils partagent ce qu'ils ont scanné, ils font des exercices individuellement et surtout ils corrigent ça collectivement. Donc il y a tout un échange qui se fait à partir d'un traitement très particulier de la formation. Et ça, cette pratique collective, elle est effectuée à la bibliothèque. Alors, cette répartition un peu particulière, donc elle m'a vraiment intéressée, j'ai interviewé ces jeunes, et l'un d'entre eux m'a expliqué que petit à petit, cette méthode s'était imposée à lui, parce que la bibliothèque lui avait semblé être l'espace de travail qui lui convenait. Alors voilà comment il me raconte les choses. Il me dit, moi à la base, ça ne m'intéressait pas de faire tout ce trajet pour venir à la bibliothèque, hein, parce qu'il est, je l'ai dit, il vient de banlieue. C'est lointaine. Donc, ce n'est pas péjoratif. Mais la première fois que je suis venue ici, je ne suis pas rentrée. Il y avait une queue pas possible. Parce que vous savez tous que la bibliothèque, vraiment, pour y entrer, il faut beaucoup de courage, beaucoup de temps d'attente, hein, en journée. Donc, il y avait une queue pas possible. Je suis rentrée chez moi. Et un jour, j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis réveillée tôt et je suis venue. Je suis rentrée. J'ai vu qu'il y avait une bonne ambiance de travail. Et ce que j'ai fait, enfin, le travail que j'ai produit ici, je ne pouvais pas le faire chez moi. Donc, finalement, ce que suggère ce lycéen, c'est qu'il a trouvé à la BPI une communauté de travail à laquelle lui-même et son groupe de copains, qui sont originaires d'une même ville de banlieue, eh bien, vont pouvoir s'identifier. Hein. Ce qui se joue ici, c'est une rupture, et ça s'entend très bien dans la suite de l'entretien, c'est une rupture avec la communauté d'appartenance qui est sa famille, sa ville de banlieue et même sa bibliothèque de banlieue, puisqu'il allait avant dans la bibliothèque de son quartier, pour aller vers une communauté de référence qui est la BPI et son public d'étudiants. Et à partir d'une séparation finalement avec le passé, eh bien, va pouvoir s'engager un travail de construction de soi. Alors, finalement, là, on voit bien dans ce cas de figure que le travail finalement de la gestion du temps qui est distribué entre l'espace domestique et l'espace public, eh bien, ne relève pas seulement d'une question d'optimisation des tâches, mais il y a une stratégie identitaire. C'est une stratégie identitaire par laquelle les adolescents finalement d'un milieu populaire vont s'efforcer de s'approprier une culture étudiante. Et donc, la production de savoir, elle prend place dans cette stratégie identitaire. Voilà, donc pour conclure sur cette question de médiation, je voulais revenir sur l'idée de plasticité qui est introduite avec l'usage de l'ordinateur portable. Puisque ce qui est intéressant dans cet objet, et je pense dans d'autres objets numériques, hein, c'est la latitude que donne l'objet pour pouvoir produire des savoirs d'une façon beaucoup plus indépendante finalement des lieux desquels ils étaient dépendants auparavant. Hein. Il y a une latitude pour extraire des données, les transporter, les traduire et finalement faire son propre bricolage identitaire. Ce qui est intéressant, ce qui m'a intéressé aussi, c'est que finalement ces lycéens montrent qu'effectivement l'ordinateur est un objet nomade, un objet qui peut se transporter, mais eux ils vont moins chercher la mobilité que le rapatriement finalement de leurs ressources cognitives mais aussi affectives dans un lieu de référence. Et à l'instar de Paul Virilio, j'observerai ici que l'objet nomade peut amener finalement à une forme de sédentarité. Une personne, comme le dit d'ailleurs une jeune fille dans un extrait d'entretien que je vous ai lu, peut être partout chez elle avec l'ordinateur portable. Alors Paul Virilio, il opposait ce partout chez lui au nulle part chez lui de l'émigré qui lui est cantonné dans un ghetto et qui lui est un véritable nomade. L'internaute, lui, il devient le sédentaire par opposition à ce nomade qu'est l'émigré, qui lui n'est nulle part chez lui. Et ce qui est intéressant pour notre propos, c'est que, sur la médiation collective, donc c'est que cet objet nous amène à voir quelque chose de la fonction de la bibliothèque dans notre cité, dans notre monde contemporain. Dans ce nouveau paysage où les frontières entre privé et public se redessinent, eh bien la bibliothèque représente plus que jamais un lieu de production de savoir, dont la fonction n'est pas seulement documentaire, mais sociale et symbolique. Et c'est ce que nous apprennent finalement ces jeunes usagers qui viennent loger cet objet, qui viennent y loger dans la bibliothèque, eh bien cet objet composite et hybride qu'est l'ordinateur portable.
Merci. C'est au contraire, je pense que vous êtes au cœur du sujet, bon, par des voies un peu différentes, mais non, c'est très intéressant de voir que là, en particulier à mon sens, hein, je vous laisserai commenter, la valeur du lieu bibliothèque comme justement incroyable médiateur, parce que c'est pas forcément fournisseur de livres là, hein, mais c'est agrégateur, comme vous l'avez dit, d'individus qui à un moment font communauté. Donc l'expérience est très intéressante, ce que vous racontez sur les deux communautés, la banlieue, la BPI. Moi, je dirais à titre totalement empirique, mais je vois autour de moi beaucoup de jeunes étudiants qui se retrouvent dans des médiathèques aujourd'hui. Médiathèque étant une sorte de bibliothèque améliorée, multimédiatique, et souvent sur un plan architectural beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus agréable à vivre. Donc, plein d'exemples autour de moi d'étudiants qui étaient ensemble au lycée, qui ne sont plus ensemble au moment de la fac, des prépas, etc., et qui se retrouvent les week-ends à la médiathèque, non pas pour emprunter des ouvrages. Ils viennent tous avec, évidemment, leur ordinateur, mais même leurs bouquins, etc., leurs sandwichs, d'ailleurs, et ils restent là tout le dimanche, ensemble, séparés par leurs travaux et reliés par le lieu. Donc, je trouve que c'est tout à fait quelque chose de très contemporain que vous avez pointé. Je ne sais pas si vous voulez commenter cette et comparer avec votre expérience de Chambéry.
À Chambéry, c'est une expérience de lecture commune, mais c'est un partage moins d'un lieu qu'une expérience de lecture, mais c'est la même chose. C'est une communauté qui se retrouve. C'est une communauté qui se retrouve autour d'un livre, d'un savoir ou d'une pratique. Donc, pour moi, il y a.
C'est des convergences.
Oui, il y a une convergence totale, quoi.
Mais vous, ça se passe moins dans les bibliothèques, je crois, que dans les cafés, c'était plutôt des lieux publics ou c'est chez des gens ou c'est où quand ils sont 15 et qu'ils se retrouvent à lire.
Alors, en fait, nous, au niveau du festival, on n'intervient pas.
Ah, ils font ce qu'ils veulent où ils veulent.
Voilà, ils font ce qu'ils veulent où ils veulent. Chaque comité qui se crée se choisit un lieu, le plus souvent public, donc ça peut être effectivement une bibliothèque, une médiathèque, mais un café, un théâtre, un restaurant, un lieu dans un comité d'entreprise, c'est des lieux à l'hôpital, en maison de retraite, en prison, enfin donc voilà. Et donc voilà, chacun se choisit.
Regroupe un lieu.
Se regroupe et donc est un peu affilié à un lieu. Et après voilà, c'est lieu de référence.
Et le festival lui-même se déroule où ? Vous avez un endroit ?
Alors, il se déroule depuis l'année dernière dans Chambéry, et dans une quinzaine de lieux publics dans la ville. Et avant, il se déroulait dans les comités de lecture.
D'accord. Donc, dans ces fameux lieux dont dont vous parliez.
Donc, j'ai un peu modifié la donne l'année dernière.
Corinne, tu voulais ?
Non.
Je vais peut-être proposer à la salle de réunion. J'avais juste une question à vous poser sur quand vous avez dit que les gens dans les comités de lecture, au départ, finalement, apprenaient le métier de lecture critique.
Oui, tout à fait.
Si vous pouviez un peu préciser les choses, comment vous voyez qu'ils sont meilleurs ? Ils apprennent un peu de technique quand même ou
C'est pas de la technique. Enfin, il me semble
ils augmentent leur expertise quand même.
Voilà, ils augmentent leur expertise par l'expérience, par l'expérience partagée uniquement. tout au long de la saison de lecture, on leur propose de se rencontrer, j'organise des journées thématiques, etc. C'est plus, en fait, je propose des ouvertures. Mais je ne propose pas de formation, par exemple. Je demande pas, j'organise pas une formation pour apprendre à lire ou à parler de sa lecture. Parce que sinon, je crois qu'on aurait tendance à lisser les lectures. Or, ce qui est très important pour nous, c'est de garder des lectures les plus personnelles possibles, mais par contre, de plus en plus argumentées. Souvent, quand je disais qu'on a toutes sortes de gens, c'est vraiment tout à fait vrai. On a des gens, effectivement, qui ont, soit par leur métier, soit par leur situation, eu un accès à la culture très tôt, qui continuent à avoir un accès à la culture et qui sont amateurs de littérature, entre autres, et qui savent, qui entrent dans un comité de lecture et qui savent tout de suite argumenter, parler de leur lecture. Puis il y a des gens qui arrivent de milieux beaucoup plus modestes, beaucoup plus populaires, et qui viennent là simplement parce que c'est des gens qui aiment lire. Ils aiment lire des histoires. Et puis ils se retrouvent confrontés dans un groupe avec des gens qui vont dire, qui vont aller au-delà du j'aime pas dont on parlait hier. Souvent, ces gens-là, ils commencent par dire, moi j'ai lu ça, j'ai pas aimé, ou j'ai aimé, et on en est là au début. Et puis au bout de quelques mois, à force d'entendre les autres aussi parler de leur lecture en avançant des arguments, en parlant des personnages, en parlant de la structure de roman, d'une langue, etc., les gens viennent me voir en me disant, maintenant ça va mieux. Ah bon, alors. Oui, et je crois que c'est par, en fait, une espèce de capillarité collective que les choses se font. Et donc, pour moi, il est extrêmement important de ne pas toucher à ça, de ne pas introduire de formation par des professionnels pour expliquer que il faut surtout pas oublier la syntaxe de je sais pas quoi. Enfin bon. Donc ça remonte tout seul.
D'accord. Est-ce qu'on n'a pas le temps pour des questions ou est-ce qu'on a le temps ?
Si, on a le temps de prendre quelques questions. Oui, Marie-Pierre Luneau, Université de Sherbrooke. Mais je vous remercie toutes les trois. J'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Ma question s'adresse à Corinne. Tout à l'heure, Anne-Marie Bertrand nous a parlé des stratégies d'évitement que les jeunes déployaient devant les choix des bibliothécaires. Alors, je ne sais pas si... J'espère que ce n'est pas une petite colle. Si c'est le cas, je m'en excuse. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de mesurer un peu les réactions des jeunes lecteurs aux prix littéraires.
Sur les prix dont je parle là, c'est très souvent des prix qui sont d'une nature, selon qu'ils ont été proposés par des enseignants, et du coup, ça se fait pas nécessairement en contact avec la bibliothèque, ça va se faire plus en contact avec une compétence interne dans les établissements qui est la documentaliste. Les choix de romans dans ce type de manifestation, ils peuvent être du fait quand même d'une sélection de l'enseignant, d'une sélection de la documentaliste. Ça peut être aussi des romans amenés par les élèves. Mais les raisons de réticence des élèves, elles ne sont pas tellement réunies dans ce genre d'événements dès lors qu'on est très très loin des lectures prescrites habituelles. Enfin, c'est déjà, par rapport à ce que peuvent être des lectures du programme, c'est déjà un espace de liberté.
Oui, un des enjeux de ce colloque était également de réfléchir à cette notion de médiation et à voir si elle nous permettait de penser plus facilement enfin, ce qui se joue dans l'édition et dans la diffusion du livre actuellement. Il me semble, et c'est une remarque qui ne porte pas seulement sur ce que vous venez de dire, mais sur les débats qui ont eu lieu cet après-midi, que cette notion de médiation est utile, mais qu'elle ménage quand même un certain nombre d'angles morts sur lesquels il serait intéressant de réfléchir et sur lesquels j'aimerais avoir votre avis. Enfin, il me semble au moins j'en identifie quatre qui sont... d'une part, le fait qu'on s'appuie toujours sur une sorte de prescription de la lecture, sur laquelle on ne réfléchit pas suffisamment, je trouve. C'est-à-dire, on est toujours dans l'idée qu'il faut faire lire, qu'il faut lire, qu'il faut aider à lire, et que la médiation est là pour faire lire. Alors, je ne sais pas, enfin, prenons par exemple la sphère politique, hein, on est quand même dans une société dans laquelle deux chefs de l'État successifs ont affiché leur mépris de la lecture. On est dans une société dans laquelle un élu du peuple vient de dire qu'il faudrait que certains écrivains aient un droit de réserve. Enfin, on est dans ce monde-là. Donc est-ce que cette question n'est plus aussi évidente qu'elle pouvait l'être à l'époque de Jules Ferry ? Le deuxième point sur lequel, à mon avis, il faudrait qu'on réfléchisse, c'est qu'on se base tous, me semble-t-il, sur l'idée d'une qualité intrinsèque du livre. C'est-à-dire, on part du principe que dans un jury de concours, par exemple, il est assez évident de faire ce premier tri dont vous parliez tout à l'heure, entre les bons et les mauvais, ceux qui peuvent être soumis ou pas. Alors que, enfin, si on examine l'histoire littéraire, il est évident que ce qu'il y a de plus intéressant, ce ne sont pas tellement les œuvres elles-mêmes. Je suis professeur de littérature, hein, pour qu'il n'y ait pas de doute, ça n'est pas un mépris du littéraire. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ce qui se passe autour des textes. Et c'est comme ça que notre histoire littéraire s'est bâtie. Donc ça aussi, ça mériterait qu'on y réfléchisse en parlant de médiation. Un autre point, pour aller très vite là aussi, il me semble qu'il y a une sorte d'angélisme qui fait qu'on ne parle pas suffisamment des aspects industriels et financiers de la transmission du livre, de son commerce et de sa lecture. Nous sommes là, on parle d'un secteur industriel et commercial dans lequel on a tendance, me semble-t-il, à avoir des propos un peu lénifiants sur l'engagement des uns et des autres, qui sont d'ailleurs très très agréables et très enthousiasmant à entendre sur le fait qu'on transmet de la culture, qu'on construit de la culture. Mais il y a derrière des mécanismes. Quand un marchand de missiles s'investit dans le livre, il est évident que son souci pour la culture est peut-être différent de celui que peut exprimer un libraire engagé, par exemple. Voilà. Et le quatrième point, c'est qu'on surestime, me semble-t-il, la connaissance de la chaîne du livre par le lecteur. Le lecteur vit encore la plupart du temps dans un mythe de la communication directe de l'auteur au lecteur. La scène emblématique, je pense, c'est la signature de livre dans un salon ou dans une librairie. On s'approche de l'auteur, il signe, il investit par son écriture manuscrite le livre. Je n'ai jamais vu un éditeur ou un imprimeur assis à côté et qui signait également l'ouvrage. Un libraire parfois, mais il est souvent autour à regarder ce qui se passe. Mais donc, ces quatre points, me semble-t-il, mériteraient, dans cette perspective, une réflexion sur la médiation. Qu'on y réfléchisse sur le fond, parce que on les considère à peu près tous comme des a priori ou des principes qui sont en train de changer aujourd'hui.
Merci. Ça fera peut-être, ça donnera peut-être des idées aux organisateurs pour l'année prochaine. Mais si l'une de vous trois veut répondre ou très vite. Commenter.
Juste deux toutes petites choses. Je voudrais juste dire que notre président a fait beaucoup, beaucoup lire La Princesse de Clèves, d'une part. Et puis aussi qu'il me semble que là, il y a tout un programme autour de l'enseignement de la chaîne du livre dans les programmes de français, notamment. Et si vous êtes professeur de littérature, je pense que vous savez aussi que le point de programme qui a été introduit sur le travail de l'écrivain au lycée n'est quasiment pas mis en œuvre par les professeurs, qui se sentent extrêmement démunis, en difficulté. Et pourtant, quand je vous entends, vous évoquez tout un ensemble de choses qui pourraient trouver leur place dans ce point de programme.
Je ne sais pas si d'autres questions, sinon on va peut-être...
Il y a une dame là-bas.
Madame ?
J'étais surprise tout à l'heure en vous entendant... mesdames, de parler de, comment dirais-je, de médiatisation que de médiation collective. Je croyais que c'était intitulé des médiations collectives. Or, quand j'entends relais médiatiques, des salons du livre pour enfants, par exemple, ça n'a aucune incidence qu'il n'y en ait pas, parce que le livre d'enfants se vend très très bien sans ces relais médiatiques. Les auteurs pour enfants ont des piles de livres devant eux dans tous les salons pour enfants. C'est un secteur qui se porte très très bien. Et qu'il soit relayé légitimé par une presse qui se fiche complètement de l'enfant, sauf à vendre. Mais ça se vend sans eux, donc ça se vend sans cette presse, grand public. Alors, je crois que moi, ce qui me paraît beaucoup plus intéressant, c'est l'expérience de Chambéry me paraît passionnante. Et puis, il y a aussi des relais qui sont les comités d'entreprise. Bon, vous avez parlé des comités de lecture. Il y a aussi des lire et faire lire, hein, qui transforment la France en une espèce de marathon de la lecture, des grands-parents lecteurs qui interviennent dans les écoles. On en est à 700 sur le Val d'Oise, par exemple. Donc, je crois qu'il y a vraiment des choses qui sont des engagements qui sont des engagements citoyens qui remplissent entièrement les missions que ne remplissent peut-être pas, ben peut-être ni le ministère de la Culture ou en tout cas par des relevés, ni les médias. Et si on déserte les médias grand public, c'est peut-être aussi pour ça. C'est parce que heureusement qu'il y a des expériences dans l'associatif, heureusement qu'il y a des espaces ailleurs où les gens n'attendent pas de recevoir la bonne parole et entreprennent des actions, se mobilisent autour de. Alors, j'entends bien la question de la prescription à lire, oui, une extraordinaire question, enfin, qui aussi peut préoccuper hein, tous les gens qui prétendent faire lire ou amener 80% d'une population au bac ou faire lire tous les gens, y compris. Enfin bon. Être dans la vidéosphère, être dans l'écran, c'est aussi de la lecture. Enfin, tout ce débat-là, on ne l'a pas eu. Tant mieux, ça fera l'objet d'un prochain, j'espère. Mais je suis assez surprise que ce soit... Hier, on a parlé de légitimité, de ce mélange de légitimation par, au fond, une presse, grand public, qui, elle, s'en fiche complètement, comme vous l'avez dit. Et pourtant, un secteur d'activité, et non pas un secteur d'activité où il ne s'embrasse pas beaucoup d'argent, où il s'embrasse beaucoup, enfin, par rapport toujours à l'édition, hein, on n'est pas dans la vente d'armes, mais pour la vente des livres d'enfants, c'est un très très beau marché. Le salon de Montreuil est vraiment la marque de, je crois que c'est 25 ans cette année, de 25 ans d'une vie, et d'une vie associative avec des collectivités, des collectifs de lecteurs, des tas de gens, des tas de... Comment dirais-je, c'est pas que Montreuil, c'est toute l'année des activités autour de la lecture. Donc voilà, moi j'avais envie, j'étais très surprise que ni par exemple la CCAS, que je représente, que j'ai pas envie de défendre des choses qui existent, mais qui est un mécénat, qui fait vivre énormément de. Qui aide les premiers, les éditeurs, qui aide les auteurs. Donc il y a beaucoup, beaucoup de relais absents ici et qui sont vraiment de la médiation collective. Hein. Et puis peut-être, voilà, j'avais envie de faire une espèce de petit point là-dessus parce qu'il faut peut-être se dire que, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les médias sont un peu dépassés. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on les fréquente de moins en moins.
Voilà. Oui, oui. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je proposerai que votre intervention nous serve un peu de conclusion, d'une certaine façon, parce que vous valorisez, au contraire, je crois beaucoup, l'énoncé de ce débat, ou même du colloque tout entier. Non, l'objet des propos qui ont été tenus ici était bien la médiation. Vous avez bien souligné. La médiatisation n'a été évoquée, je crois, qu'à contrario, ou pour bien voir qu'elle était plutôt en retard. Donc le livre, non, je crois que le livre, et c'est pour ça que le sujet de ce colloque était intéressant, le livre aujourd'hui est au centre d'un processus de démocratisation ou prise, comme vous l'avez dit, je crois, les gens prennent en main la chose, n'attendant pas la bonne parole, ni des médias, ni des figures classiques d'autorité. Il y a une dimension un peu désordonnée, un peu peut-être parfois démagogique dans tout ça, mais il y a aussi évidemment beaucoup de choses très intéressantes, très positives. Moi, j'ai été très intéressée par ce que vous avez dit toutes les trois, personnellement, j'espère que vous l'avez été aussi. Et en tout cas, ce qu'on voit bien, c'est que nous avons la chance d'être devant un processus historique. Donc on va regarder, on va voir dans 6 mois ou dans 1 an si nous nous retrouvons l'année prochaine. Il y aura encore d'autres choses intéressantes à dire. Donc, en attendant, observons.
Merci beaucoup. Nous attendons donc Bertrand Legendre qui va faire une synthèse des débats qui ont eu lieu pendant ces deux journées.
Nous arrivons à un moment cruel, à divers titres, cruel pour moi parce que je dois me livrer à un exercice assez périlleux de synthèse, de deux journées d'échanges qui ont été très divers dans leur contenu. Et donc, inévitablement, cette synthèse va faire de la casse, mais vous garderez davantage en mémoire les échanges que la synthèse. Cruel aussi pour vous, sans doute, un peu ce moment, puisque nous sommes samedi, il est 19h. Vous avez sans doute envie de vaquer à d'autres occupations, comme par exemple aller regarder le match France-Irlande, dont je viens d'apprendre sur mon BlackBerry, qu'on nous disait que la tension montait. Donc, je vais essayer de faire bref pour toutes ces raisons, en essayant malgré tout de rendre compte de nos échanges. Le programme de ce colloque, tel que nous l'avions conçu avec Isabelle Bastien-Duplex et Emmanuel Payen, embrassait large et nous l'avions voulu comme tel. Nous l'avions voulu comme tel en mesurant, bien sûr, les risques de cette amplitude. Le principal de ces risques aurait été de voir se juxtaposer des discours indépendants les uns des autres, d'entendre des exposés sectoriels sans que ne se dégage véritablement de passerelles, au minimum de passerelles, entre ces différentes contributions. Des passerelles ou davantage. Secrètement, nous espérions qu'il se dégage autre chose que de simples fils ténus. Et c'est bien ce qui me semble s'être produit au fil des échanges, et qui a permis, me semble-t-il, véritablement de construire notre sujet, de lui donner toute sa dimension. Nous sommes partis avec la conférence de Robert Damien d'une approche philosophique de la question, qui, à partir de l'héritage platonicien, a permis d'interroger ce que Robert Damien a nommé l'euphorie de l'abondance, d'interroger également ses principes de servuction et la sérendipité, ce hasard bienveillant, jouant désormais en contrepoint des processus bibliothécaires et documentaires. En concluant son propos, Robert Damien appelait à l'émergence d'un nouvel esprit bibliothécaire. Cette invitation, j'en suis convaincu, n'avait pas de sens restrictif. Elle concernait de fait l'ensemble des acteurs de l'écrit en tant que producteurs, marchands, critiques, auteurs, responsables politiques, formateurs, responsables de manifestations, chacun ayant à sa charge des discours et des actes qui agissent sur la relation entre l'offre et le lecteur. Cette acception large de la médiation est, me semble-t-il, une clé de lecture de l'ensemble du processus de production, circulation de l'écrit, pour peu, et je crois que la précaution a son importance, pour peu que l'on prenne la précaution donc de distinguer entre promotion, prescription et information, comme l'ont fait Dominique Viard et Christophe Kantchev notamment. Cette clé de lecture a plusieurs usages. Elle éclaire les politiques éditoriales au travers d'une partition entre édition de l'offre et édition de la demande, telle que nous l'a, par exemple, rappelé Paul Tchaïkovski-Laurence. Elle permet aussi, cette clé de lecture, une analyse de la fonction auctoriale et des modes ou degrés d'engagement de l'auteur envers le public. Si POL, pour l'appeler par ses initiales, considère qu'il ne faut pas s'épuiser à chercher le public, ce public insaisissable, Marie-Pierre Luneau a montré comment l'engagement d'auteur sur les nouveaux outils de médiation, comme les blogs, les sites web, prend souvent la forme d'une apologie de la relation directe auteur-lecteur, permet aussi l'autoconstitution de la figure d'auteur par la négation des autres fonctions médiatrices et va de pair, pour le public, avec le renforcement de la croyance en l'univers romanesque. Cette clé de lecture, encore, éclaire les logiques de prescription à l'œuvre dans un contexte industriel et financier, dont Hervé Séry nous a amplement parlé, où l'augmentation de l'offre conduit à un accroissement de la difficulté à estimer cette offre et contribue à augmenter, développer les enjeux liés aux positions d'autorité et au rôle des labels dans l'orientation des choix. Ces positions d'autorité sont aussi le fait de la critique, dont la conception et la place qu'elle occupe dans les médias, comme l'a expliqué Christophe Kantchev, sont corrélées à sa capacité à faire vendre, assimilant étroitement la fonction critique à celle d'un guide de la consommation, là où elle aurait davantage pour rôle d'introduire du désordre dans le consensus. En référence à l'école de Francfort, et nous retrouvons l'approche philosophique, et aux travaux de Jürgen Habermas sur l'espace public, Christophe Kantchev a prolongé l'approche critique et philosophique de la fonction de médiation en prônant une réactivation de la formation du jugement critique, susceptible de contrecarrer ses discours d'autorité et l'avis des pairs dont Anne-Marie Bertrand elle-même a fait état. On peut également rattacher à toute cette approche, l'importance des comités de lecture dont on vient de parler, des clubs de livres dont Mariette Darigrand a évoqué le développement. Tout ceci peut entrer dans cette sphère d'analyse. D'autres prolongements sont envisageables et ont été abondamment développés en termes de formation, tout d'abord, s'agissant aussi bien des bibliothécaires que des libraires, avec cette difficulté évoquée aussi par Anne-Marie Bertrand, qui tient au fait que, pour le médiateur, il trouve sa légitimité davantage dans le back-office, pour reprendre son expression, que dans le travail de médiation lui-même. Prolongement également en termes de connaissance des usages, et le dernier exposé d'Agnès Camus-Viguier, de ce point de vue, était tout à fait important en pointant toute cette attention nécessaire aux usages en train de se constituer. À ces difficultés et à ces prolongements s'ajoute une idée reçue qui voudrait que l'on ne devienne pas médiateur, mais que cette fonction relève de dons innés, indépendants de la nécessaire culture professionnelle et culture tout court, sur laquelle ont insisté aussi bien Christian Torel qu'Anne-Marie Bertrand. Ce qui est finalement en jeu, comme le rappelait Dominique Cartelier à propos de la vulgarisation scientifique, c'est le rapport de la société au savoir et à la culture dans son ensemble. La boucle est ainsi bouclée, renvoyant à la question initiale du sens et de la construction de soi. Si l'on peut tirer un seul motif de satisfaction, j'espère qu'il y en a plusieurs, mais un seul motif de satisfaction à l'issue de ces deux journées, c'est, je crois, d'avoir redonné à la médiation, peut-être pas toute sa complexité, peut-être pas toute sa dimension, et la dernière intervention de la salle pointait des manques, j'admets bien volontiers. Nous avions un champ très large. Ceci, je suis tout à fait d'accord avec vous, madame, aurait pu être intégré dans notre programme. Nous aurions pu prévoir une troisième journée. En tout cas, il me semble que nous avons largement redonné à cette notion de médiation la dimension qui est la sienne, ou une large partie de la dimension qui est la sienne, allant en tout cas très au-delà d'une fonction souvent fragile, dotée de peu de reconnaissance, celle tenue par ceux que l'on a nommés les médiateurs du livre, peut-être parfois pour mieux circonscrire ou évacuer l'importance que cette notion, l'importance et les enjeux que cette notion de médiation revêt à nos yeux. Voilà donc quelques éléments de synthèse que je souhaitais donc reprendre pour clore ces deux journées. Il me semble que nos échanges ont été riches. L'exercice était difficile, risqué. Nous avons associé des professionnels, des universitaires, de types de discours qui peuvent cohabiter de manière heureuse. Ça a été le cas. C'est parfois un peu délicat. Mais je suis convaincu, nous étions convaincus que ce croisement d'approches, ce croisement de discours allait être fertile. Et bien sûr, nous n'avions absolument pas l'intention de clore aujourd'hui la réflexion sur ces enjeux. Donc je vous remercie beaucoup. Je remercie tous les intervenants de leur travail, de leur présence. Je remercie le public d'avoir tenu jusqu'à cette fin de journée. Remercie encore Isabelle Bastien-Duplex et Emmanuel Payen du travail qu'elles ont effectué sur ce projet. Merci à vous. Bonsoir.